Voici la lecture de l'évangile du jour, tirée de l'évangile selon Jean, au chapitre 6, les versets 60 à 71. Après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Et là, je suis obligé de faire une précision parce que le texte surgit comme ça. De quoi s'agissait-il ? Eh bien, Jésus venait juste de critiquer les traditions des gens qu'il avait écoutés lors d'un prêche dans une synagogue. Il leur a dit « Vos pères, ils sont morts », ce qui était une parole très dure. Continuons la lecture. Jésus, sachant que ses disciples maugréaient à ce sujet, leur dit « Est-ce là pour vous une cause de chute ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ils ne marchaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, est-ce que vous voulez vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. » Nous, nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. Et Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Pourtant, l'un de vous est un diable. » Et il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui allait le livrer, lui l'un des 12. « À qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. » Aujourd'hui, tout le monde sait ce que désigne la vie éternelle. Bien sûr, je reviendrai sur cette affirmation grandiose au milieu de cette prédication. Mais jadis, quand la méprise sur cette expression était enseignée de génération en génération, quand la religion chrétienne occupait les esprits en Occident, il n'y avait pas grand-chose à réfléchir. C'était une donnée que la vie éternelle désignait la vie après la vie après la vie dite terrestre, et qu'elle allait durer. Qu'elle allait durer non pas éternellement, mais sempiternellement. D'une façon bienheureuse et paradisiaque, ou catastrophique et infernale, certes, mais la vie éternelle, paradoxalement, désignait une durée qui commençait après la mort et ne finissait jamais. Puis, il y a eu quelques secousses, en particulier celle de la réforme, la crise occidentale qui a rebattu les cartes du jeu du salut, le jeu du salut, en instituant une nouvelle donne. On ne pouvait plus mériter, par ses œuvres, par ses actes, la vie dite éternelle. Seule la grâce de Dieu en décidait. Du coup, et c'est un effet collatéral, cette nouvelle donne a pu être interprétée comme une invitation finalement à se dépréoccuper de la seule question religieuse qui compte, à savoir celle du salut. Je ne sais pas, toujours est-il que de fil en aiguille, en Occident, cette question de la vie éternelle a été remisée dans les livres de théologie. Plus grand monde ne se retrouve attaché à cette notion au fond très peu biblique d'une vie sempiternelle commençant après la mort. Tout cela à cause d'une méprise d'interprétation. Méprise que l'imam de Bordeaux, évoqué d'ailleurs ce matin même dans l'émission « Questions d'Islam » sur France Culture. Très peu biblique, bien entendu, puisque la Bible hébraïque n'a aucune théorie sur cette question. Et concernant le Nouveau Testament, c'est un peu plus complexe à cause de certaines paraboles dont on pourrait éventuellement tirer quelques leçons, quelques idées, mais ou alors quand Jésus aurait dit à un de ses larrons autour de lui, dans le champ des crucifiés, il lui aurait dit « Tu seras avec moi dans le paradis ». Une des trois fois où ce mot « paradis » d'origine perse et qui désigne un jardin clos se retrouve dans la Bible, trois fois dans la Bible. Trois fois, ce n'est pas beaucoup, mais en plus, il y en a une qui est dans le livre de l'Apocalypse, qui, comme chacun se le rappelle, est un livre passablement discret sur ce qu'il veut dire. Pourtant, cette notion a eu un énorme succès par la suite. De même, vous le savez, l'enfer désigne étymologiquement le lieu inférieur, comme une tombe, par exemple, et en aucun cas ce qu'il est devenu bien plus tard. Bref. Et puis l'expression grecque traduite par la vie éternelle, elle désigne, et particulièrement dans l'évangile de Jean où nous sommes ce matin, la vie, non pas sempiternelle, non pas une vie après la mort, mais la vie en plénitude. En fait, l'expression « la vie éternelle » désigne la vie même du Dieu auquel ces croyants se réfèrent. Une vie pleine, sans commencement ni fin, au-delà de ce qu'on appelle la vie et de ce qu'on appelle la mort. Au-delà de notre idolâtrie du temps qui passe, linéaire. Devenir croyant dans ce cas, c'est plutôt la proposition d'être plongé dans la vie même de Dieu, de ce Dieu, et de recevoir son souffle éternel. Et oui, un jour peut-être, être emporté dans cette éternité qui se ressent simplement en embrassant la vie éternelle de ce Dieu, mais aussi en d'autres circonstances que la vie offre. Je disais en début de cette prédication qu'aujourd'hui tout le monde sait mieux finalement ce que désigne la vie éternelle. Et donc j'ai corrigé en disant c'est un peu mieux que naguère ou jadis. Puisqu'en effet, aujourd'hui, chacun est amené à découvrir que le petit monde dans lequel il vit a un au-delà, qui est bien avant lui et qui est bien après lui. Aujourd'hui, a commencé par ses propres gènes, les propositions pour être effaré, dans le bon sens du terme, sont beaucoup plus nombreuses qu'avant. De ce qu'on appelle l'infiniment grand à l'infiniment petit, des étoiles au fond marin inexploré, des trous noirs à la matière noire, de l'infinie créativité de ce qu'on appelle encore la nature, une créativité à peine soupçonnée. Bref, tout cela ne fait pas devenir un croyant, bien sûr, ni ne sert de preuve à l'existence d'un Dieu, mais pourrait sensibiliser à la possibilité de tout simplement voir que cette vie éternelle existe et qu'elle n'a pas de rapport spécifique avec notre humanité et l'histoire qui va avec. Et que cette vie s'est déployée, qu'elle se déploie et qu'elle se déploiera indépendamment de nous, et ce, éternellement. À qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle, répond Pierre, pour l'ensemble des disciples qui restent peu nombreux. À Jésus qui leur demandait si eux aussi, finalement, ne voulaient pas partir. Provocateur, Jésus. Mais partir pour quoi, finalement ? Eux, déjà, ils avaient tout quitté pour suivre le Christ dans son ministère. Sans doute, au départ, avait-il des espoirs concrets, pour certains, de restauration politique, comme ce fameux Judas Iscariote, qui allait trahir Jésus pour des raisons probablement politiques. Des espoirs religieux ou personnels ou que sais-je, mais s'ils ont tenu, c'est parce que celui-ci avait des paroles de vie éternelle. Non pas en tant qu'il promettait la vie éternelle, comme peuvent le faire tous les manipulateurs, mais parce que ses paroles la rendaient présente, puisque c'est une des temporalités avec laquelle nous pouvons nous lier à la vie éternelle par le présent, par la présence. À qui irions-nous et vers quoi irions-nous mener des combats d'avant ou d'arrière-garde? Vers quoi? Vers l'affichage d'une vie réussie? Vers l'argent, vers le pouvoir? Jésus, dans ses actes et dans ses paroles, a déblayé toute ces façons de recevoir du salut. Vers quoi qui soit de nature à rivaliser avec le présent reçu de la vie éternelle? Vers quoi? Vers qui? Vers personne. Aucune des propositions alternatives de salut n'a autant de saveur. C'est ça, tout simplement, croire. C'est d'abord arrêter de croire à ce qui, au fond, a beaucoup moins de saveur que la vie éternelle. Bien entendu, cela transforme les vrais croyants en une armée d'incrédules en face des valeurs de ce qu'ils appelleront plus tard le monde et en face de ceux qui implorent qu'on leur fasse confiance et qui, constatant que l'hypnose ne fonctionne plus, finissent toujours par recourir à la répression et à la violence comme celle qui s'est finalement abattue sur Jésus. À qui irions-nous? Amen.